J'ai la chance de faire le métier que j'aime. Donc, je mesure tous les jours le bonheur que c'est. Donc, Eva va bien.
D'accord, on est rassurés. Donc, la question était pertinente, finalement. C'est bien.
La question était très pertinente.
Mademoiselle Durand, à vous le micro.
Bonjour, c'est moi. Du coup, j'ai une question. La première, c'est est-ce que pour l'émission Culture Média, le régisseur, il était tout seul ou pas?
Il était tout seul.
Le régisseur
de l'émission.
En régie.
Le régisseur? C'est-à-dire le réalisateur?
Oui, c'est ça, c'est ça. On n'a pas forcément les bons termes. Hein. Parce qu'on a...
C'est pas grave. Donc, oui, c'est vrai qu'on appelle en télé, c'est plutôt un régisseur. Et à la radio, en l'occurrence, c'est un réalisateur. Et il est seul dans la régie, qui est assez énorme. Et c'est vraiment un pilote d'avion et il est tout seul, ouais, effectivement. Ouais. Vous avez entendu mes messages arriver là?
Oui.
Ah, non, c'est bon. Ouais, j'ai répondu à ta question?
Oui,
d'accord.
On continue, allez-y.
Alors, du coup, je voulais vous demander qu'est-ce qui est le plus confortable pour vous, la radio, la télé ou la presse écrite?
Ah, confortable. C'est marrant que vous utilisiez ce terme-là. En fait, c'est trois exercices complètement différents. J'ai adoré la presse écrite pendant les 20 ans que j'en ai fait. J'ai quand même un amour inconsidéré pour la radio. Mais ça ne veut pas dire que c'est le plus confortable, parce qu'en fait, la radio, c'est quand même un média très écrit. J'écris beaucoup les chroniques, donc en vrai, ça ressemble quand même à l'exercice que je faisais quand je travaillais en presse. Il n'y a pas de truc plus confortable, mais la radio, il y a un truc magique qui est offert, ouais, je trouve.
Alors, c'est quoi ce truc magique? On arrive à caractériser ou c'est indéfinissable?
C'est étrange, c'est que j'ai l'impression vraiment d'être en communion avec les gens. C'est-à-dire, je pense vraiment aux gens quand je suis en studio. Je pense aux gens qui nous écoutent. Et c'est presque comme si vous pouviez les toucher, mais parce que je pense qu'il y a un truc avec la voix qui est très spécifique. Et d'ailleurs, c'est le média où j'ai le plus de retours. En tout cas, de retours qui sont intéressants, c'est-à-dire où les gens, ils vous écoutent. Et où les remarques qu'ils vous font, c'est pour ce que vous dites, sur le fond de ce que vous dites. Parce qu'à la télé, ma mère, la première, hein, elle va me dire « t'étais mal maquillée » ou « ton chemisier était moche », quoi.
Oui.
Et sinon, je lui dis « mais sinon, c'est bien ce qu'on a dit » ou voilà. Bon, ben, en fait, les gens, dès qu'il y a l'image, c'est un peu plus compliqué. Donc, la radio, il y a ce rapport-là avec le public. Et puis, je ne sais pas, le confort du studio, vous mettez votre casque, vous... C'est très étrange, je sais pas, c'est difficile à écrire. Pardon ?
Une bulle un petit peu.
Ouais, c'est une bulle, ouais. En plus, selon les studios où vous êtes, on a des studios qui sont plus ou moins petits, où on peut baisser la lumière, etc. Et même quand vous avez un invité, d'un coup, ça change la relation à votre invité, vous rentrez dans son intimité, moi je trouve ça hyper agréable. Ouais. Dans ce sens-là, c'est vrai que le mot confortable est assez juste au fond, ouais. On est dans le confort du studio, c'est vrai.
Un cocon, une espèce de bulle, ouais, en effet. Ouais.
Exactement.
Ouais.
Moi, et en plus, vous savez, c'est coupé du monde parce qu'on n'entend pas les bruits extérieurs, on n'a pas de lumière du jour, donc il peut y avoir une tempête, je ne suis pas au courant. Quoi.
Pour
assez agréable.
Pour ma petite expérience personnelle, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai qu'en télé, il y a du monde partout, ça grouille de partout, vous êtes toujours attentif à plein de trucs. Et ouais. Entre le fait d'être équipé, ça marche pas, le cadrage, est-ce que je brille, machin. Ce qui fait qu'on est parasité soi-même sur l'image qu'on va donner de nous. Alors qu'en radio, on est focus sur ce qu'on dit et la manière d'utiliser la voix. Et en effet, ça...
Alors, oui, et non. Enfin, oui, parce que vous êtes dégagé de l'histoire de l'image, même si on est filmé.
Oui,
En fait, on oublie totalement. Bon, un peu trop, des fois, je le reconnais. Enfin, quand vous vous levez à 4 heures du matin, vous avez très envie d'arriver en pyjama. On vous dit que non, mais vous avez très envie. Mais il y a un truc en radio que vous ne mesurez peut-être pas. C'est que quand vous nous voyez faire les chroniques ou vous nous écoutez faire les chroniques, moi, régulièrement, il y a quelqu'un qui me parle en même temps dans l'oreillette.
D'accord.
Qui me dit « Attention, il te reste 10 secondes. » Il faut que tu coupes un extrait, pose cette question à l'invité. Non, ne lui pose pas cette question. Et quand vous animez des émissions, comme ça m'est arrivé, là, en plus, vous devez gérer la publicité, vous devez gérer le chrono, mais c'est à 10 secondes près, vraiment. vous gérez vos autres chroniqueurs? Il y en a un qui, tout d'un coup, vous sentez qu'il n'est plus là et il faut que vous lui fassiez des signes en même temps, que vous parlez, qu'on continue à animer. C'est une gymnastique pour votre cerveau. Vous êtes épuisé à la fin.
D'accord.
Vraiment, mais épuisé. Mais c'est très bien. Moi, j'adore ça.
D'accord. Question suivante, Mlle Biron.
Alors, c'était, est-ce que vous êtes payé pour les podcasts que vous faites? Et sinon, quel est votre intérêt du coup?
Alors, oui, je suis payée parce qu'en fait, les podcasts sont produits par Europe 1. Et donc, à Europe 1, en début d'année, ils m'ont dit, voilà, qu'est-ce que tu vas faire cette année? Tu vas faire la chronique chez Philippe Vandel dans Culture Média, tu vas faire le podcast. Et bien, pour ce job-là, on te propose quelle rémunération? Et chaque année, ma rémunération, elle change en fonction des missions que j'ai à accomplir pour la radio. Alors qu'à la télé, c'est, je suis payée par émission, en fait. Si un jour je suis malade ou je ne peux pas venir, je ne suis pas payée. Et à la radio, en même temps, c'est un peu pareil aussi. Mais bon, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, donc je suis rémunérée pour le podcast. Ouais, j'ai cette chance-là, ouais. Okay. C'est pas le cas de tout le monde, ouais. Tout à fait. D'accord. C'est une très bonne question.
Je suis la prochaine.
Oui, oui, allez-y, allez-y, allez-y.
Est-ce que vous enregistrez tout d'un coup ou vous faites petite partie par petite partie?
Ça, c'était pour le podcast, hein, je crois qu'on avait...
Ouais. Ah non, non, mais tout d'un coup. Il m'arrive de refaire une introduction, par exemple, parce que je veux rajouter un élément, ou la conclusion, parce que comme dans la conclusion, je donne le programme de la semaine d'après, des fois, ça a changé, donc je le refais. Mais ce que vous entendez, c'est vraiment ce qu'on enregistre. À tel point que, pour vous donner un exemple, hier, on a enregistré donc, le podcast de la semaine prochaine avec le réalisateur de la série Hippocrate. Et l'entretien a duré 1h30, ce qui est beaucoup trop. Et donc, on va diviser en deux parties. On va diviser pour en faire deux épisodes. Donc là, effectivement, je vais refaire une petite introduction et une petite conclusion. Mais vous entendrez l'intégralité de ce qu'on s'est dit comme bêtises.
Ouais. D'accord.
Et de trucs intelligents.
Oui, bien sûr. Question suivante, on vous écoute.
Est-ce que pour les questions que pose le présentateur, c'est vous qui lui écrivez ou c'est lui qui le fait tout seul?
Ah, vous avez bien écouté. Alors, ça s'appelle des relances. Et effectivement, en fait, ça change d'un animateur à l'autre. Par exemple, avec Philippe Vandel, c'est moi qui lui écris les relances, donc qui lui écrit ses questions, qui me pose. Il y a d'autres animateurs avec qui je travaille qui veulent, eux, les écrire. Et moi, par exemple, quand j'anime, je préfère les écrire moi. Voilà. Alors, après, on donne des indications. On se dit, tiens, bah, là, ce serait bien qu'il y ait une relance. Et voilà. Mais avec Philippe, c'est Philippe, je lui écris, ouais. Ouais. Tout à fait. Très bonne question. On ne me l'avait jamais posée.
Non, mais ils sont forts, mes élèves, ils sont bien.
Ah ouais.
En plus, Mlle Durand, vous voulez devenir journaliste, si je me rappelle bien.
Oui.
Voilà.
Ah, bravo.
Allez, on continue, ouais, j'écoute.
Pour un podcast de 36 minutes environ, vous prenez combien de temps pour préparer?
Alors, ça, c'est impossible que je réponde à ta question. Parce qu'en vrai, vous voyez, par exemple, pour la chronique chez Philippe Vandel, qui dure 3 minutes chrono, à l'antenne, j'ai à peu près entre 6 et 7 heures de travail par jour pour une chronique. Pour le podcast, je peux avoir besoin, c'est même pas, enfin, disons pour une demi-heure de podcast, je peux avoir besoin de 30 heures de travail comme 60 heures. Ça dépend vraiment du sujet. Comme en plus c'est un podcast sur les séries, il faut que j'ai le temps de regarder les séries. Donc, ça rentre dans le temps de travail aussi. Et donc, quand vous avez des séries qui font 10 saisons et 170 épisodes que vous n'avez pas encore regardé, c'est l'horreur. Donc là, bon, il faut que je trouve des méthodes pour ne pas tout regarder parce que ce n'est pas possible. Mais je suis incapable de répondre à cette question. Et c'est vraiment... Puis, il y a des sujets sur lesquels je vais aller très vite, hein, ou des interviews que je vais écrire très vite parce que j'ai tout en tête. Et d'autres, je galère, il faut que je fasse de la documentation, que je pose des questions ailleurs pour savoir, que je fasse des coups de téléphone. Enfin, c'est impossible à répondre. Je suis désolée.
C'est une réponse quand même.
Madame.
Oui, allez-y.
Ouais.
J'ai une question, je peux la poser avant de l'oublier?
Oui, allez-y, ouais.
À partir de quoi vous vous basez pour estimer que votre chronique est réussie ou pas?
Oh! Alors, excellente question. Tu parles de la chronique de chez Vandel, par exemple?
Oui. par exemple.
Il y a plusieurs choses. Donc ça m'arrive, tu m'entendras rarement le dire, hein, que j'ai fait une chronique réussie. Mais il y a des moments où tu sens que l'écriture est là, que c'est bien écrit, que tu as les bons extraits, que tout s'enchaîne, que tu as réussi à captiver ton animateur et Bertrand Chavoroy, par exemple, avec qui je travaille. C'est un enchaînement de trucs, en fait. Mais... j'essaie de faire au mieux, mais je serais incapable de dire tiens, waouh, super, j'ai fait une méga chronique. Je suis incapable de dire ça, mais vraiment incapable.
Et vous faites des retours après entre vous sur aujourd'hui t'étais bien, j'ai bien aimé ça ou...
Ouais, on le sent assez vite en fait. En vrai, quand on sort, on se dit tiens, ça a marché, mais c'est un sentiment, c'est vraiment du ressenti. Et des fois, c'est pas sur celle qui exigeait le plus de travail ou vous sentez qu'il y a vraiment votre patte, etc. Des fois, c'est un truc imperceptible qui se passe, qui fait que vous dites « Ah ben là, ça a fonctionné ». Des fois, le ton de la voix, des fois, on fait une super chronique à l'écrit, il y a tous les extraits, il y a tout, et en fait, vous, quand vous rentrez dans le studio, votre voix, elle n'est pas... Je sais pas, il y a un truc qui vous a contrarié, vous n'êtes pas bien, et ben résultat, la chronique, elle tombe à l'eau, quoi. Mmh. Ou alors, l'animateur... parce que ça arrive, hein. L'animateur rentre dans intervient pendant l'extrait et vous coupe la parole ou tout ça, c'est des micro détails en fait, quoi. Ouais. Et très bonne question aussi.
Ok.
10 points.
Ensuite, alors on revient à notre fil de questions. Zelle Durand, je crois qu'on est à la 8, si je me trompe pas.
C'est ça. Comment est-ce que vous travaillez le lien entre la télé et la radio?
En fait, c'est comme si j'avais deux métiers, en vrai. J'ai mon métier à la radio, où je parle essentiellement de médias et de séries. Et à la télé, c'est complètement différent, parce qu'on est vraiment sur des sujets d'actualité ou de culture d'une façon plus générale. Et donc, c'est comme si je commençais un autre métier quand je travaille les chroniques et mes interventions pour la télé. Donc, en fait, pour moi, il n'y a pas de lien. Sauf si... on va traiter un sujet de télé ou de média pendant l'émission de télé, mais comme ça arrive rarement, il n'y a pas de lien directement.
Vous ne pouvez pas recycler, quoi, d'un truc à un autre?
Non, malheureusement.
Ça serait bien.
Ah, j'aimerais bien. Enfin, presque. Parce que pour le coup, je peux vous donner une exclusivité. Pour l'émission de samedi à la télé, on va parler du cash investigation présenté par Élise Lucet de la semaine prochaine. Qui sera diffusé sur France 2, et il est possible que j'en parle à la radio, mais il est possible que j'en parle pas, parce que si j'ai un autre truc plus important, voilà. Donc là, je ferai du recyclage.
D'accord. Moi, j'ai peut-être une question, une question à tuiler. Est-ce que vous avez la liberté de proposer vos sujets de chronique, ou alors on vous les propose, on vous les impose
En cas. Télé ou en radio?
En radio.
Alors, en radio, je fais exactement ce que je veux.
D'accord.
Personne ne me demande rien, et personne ne m'impose rien. Mais parce que la radio, en plus, a cette liberté-là, quand même. C'est de tous les médias, c'est le média où vous avez la plus grande liberté en termes de choix. Puis en plus, moi, je travaille comme ça, et ça a été accepté. Donc, et pareil pour le podcast, je décide de tout. Et à la télé, en vrai, on est assez bien organisé dans l'équipe avec laquelle je travaille, parce qu'on a nos invités, nos thématiques. Et au sein de tout ça, on se dit, ah, tiens, moi, j'aimerais bien plutôt poser une question là-dessus, intervenir là-dessus. Et là encore, c'est nous qui faisons ce choix-là. Et on en parle ensemble, en fait. Ce qui est vraiment une très grande liberté en télé, parce que souvent, on vous impose plutôt vos interventions. Mmh, mmh. Et là, là, je dois dire qu'on arrive à travailler avec la plus grande des intelligences, qui est extrêmement agréable. Extrêmement agréable. Mmh. Là, j'ai beaucoup de chance.
Alors, si je ne me trompe pas, le rédac-chef de l'émission radio, il bosse dans l'émission télé, c'est ça?
Ensemble, ouais, exactement, c'est okay. Antoine Janton. Ouais. Ah, tout à fait. Okay. Ouais, tout à fait. Exactement.
Et je suis maline. Hein. Je suis bien informée.
Non, okay. Là, t'es là aujourd'hui. Hein. Là, c'est la première
fois que je suis comme ça. Pour venir. Question suivante, Mlle Durand.
Est-ce que les invités qui viennent, ils viennent toujours pour faire de la promotion?
Alors là, tu parles de la radio, de la télé ou un? Pour les deux?
Ouais.
Alors, en radio, sur la partie culture, ils viennent aller à 99,9% pour la promo. Pour les podcasts, Pour les podcasts, ils viennent de plus en plus hors promo, ce qui est extrêmement agréable, parce qu'on peut parler de tout le travail qu'ils ont fait, voilà, sans qu'on soit bloqué sur un truc. Donc ça, c'est hyper bien. Et à la télé, alors à la télé, pour l'émission à laquelle je participe, donc à Célébdo, c'est pas tout à fait pareil, parce que les invités qu'on a, ils viennent pour un sujet. Alors, il y en a certains qui viennent parce qu'il s'avère que le sujet qu'on veut aborder s'appuie sur un bouquin d'invité en question. Donc, il vient et on va passer 2 secondes sur la promo, c'est-à-dire qu'on va montrer le livre, hein, mais c'est tout. Mais sinon, la plupart du temps, ils sont plutôt hors promo. Et ça aussi, c'est hyper agréable. C'est vraiment très, très agréable. Ouais. Après, c'est bon, on va pas se mentir, hein. C'est très compliqué de faire venir les gens quand ils n'ont pas une promotion. Vraiment très compliqué.
Oui, parce qu'ils ne sont pas payés pour venir. Donc,
ils ne sont jamais payés pour venir. Il n'y a aucun invité qui est payé. Ouais. Aucun... Contrairement aux États-Unis d'ailleurs, hein, souvent quand vous voyez des late shows, c'est-à-dire les émissions du soir, où il y a souvent des sketchs et des trucs comme ça, les invités sont payés. Mais c'est assumé, hein, il n'y a pas de mystère. En France, jamais un invité n'est payé. Ouais. Donc ils viennent quand ils ont un truc à vendre. Ouais. Malheureusement. Mmh.
Allez-y, question suivante.
Est-ce qu'il y a des gens, que c'est difficile de les interviewer plus que d'autres ?
Oh, bah ouais, oh là là.
On veut des noms, hein. On veut des noms après.
Non, il y a des gens, il y a plusieurs cas. Il y a le cas de la personne qui fait rarement de médias, donc rarement d'interviews télé ou radio, et qui est figée, qui a peur, et qui répond à toutes vos questions par oui, non. Oui, non. Et là, vous vous dites, waouh, ça va être très, très long. Très, très long. Donc, c'est à vous de le mettre à l'aise. Et bon, c'est compliqué. Il y a des gens qui viennent en promotion et qui veulent faire que la promotion et qui ne veulent pas une seule question à côté. Donc, dès que vous allez un peu, vous sentez que vous partez, ils tirent la tronche ou, enfin, bon, vous sentez que ça ne va pas le faire. Voilà. Il y a quelques artistes un peu, à l'ego surdimensionné qui sont comme ça. Mais en général, je vais vous dire, en vrai, si vous faites, à part vraiment la personne qui est figée de peur, et ça arrive, hein, voilà. Généralement, si vous faites le travail, c'est-à-dire que si vous avez bossé, que vous avez un peu d'empathie pour la personne que vous avez invitée, avec qui vous avez envie de parler, ça se passe relativement bien. Hein. Moi, j'ai pas beaucoup d'exemples de moments où ça s'est mal passé. Après, c'est plus compliqué quand vous avez des gens qui sont un peu rudes, quoi. Je me souviens d'un podcast avec Eric Benzekri, qui est le créateur de Baron Noir, de la série Baron Noir, où là, je sentais qu'il fallait y aller, c'est-à-dire qu'il fallait avoir des questions très pertinentes, qu'il fallait rien lâcher, qu'il fallait lui montrer que j'avais tout vu, que je connaissais la série par cœur, parce que sinon, le mec, il me démontait, quoi. Il n'aurait pas répondu aux questions, ou il aurait été un peu cinglant en disant « oui, bon, bah, ça va, quoi ». Voilà. Et puis quand on est une fille, des fois, c'est un peu plus compliqué aussi. Mais ça, c'est un autre débat.
Et ça, c'est une autre question qui viendra peut-être. donc, on n'a pas eu de nom. Bon, tant pis.
Si je peux vous dire... Non, mais par exemple, j'ai eu une très mauvaise expérience avec Christian Clavier.
Ouais.
J'ai arrêté l'interview. J'étais jeune journaliste, en plus. Donc, c'était très compliqué pour moi. Elle s'est excusée après, mais j'ai eu un accrochage avec Anne Romanoff en direct. C'est un peu compliqué, ça.
Oui.
Parce qu'elle était pas de bonne humeur ce jour-là. Il y avait un truc qui l'avait contrariée. Donc, vous dépendez aussi de ça. C'est-à-dire que moi, j'arrive avec ma bonne humeur ou ma mauvaise humeur, l'invité aussi. Vous voyez, c'est une histoire d'interaction qui fait que ça peut ne pas bien se passer, mais pas parce que le type en face est con, enfin, pardon pour le vocabulaire, hein, mais c'est comme vous, quand vous allez en cours, des fois, ça se passe bien avec un prof, et des fois, ça se passe pas bien, et ça, voilà, ça dépend de l'étincelle qui est entre vous, quoi. Comme avec vos potes, hein, c'est pareil. Hein. Il y a des moments où vous les supportez plus, hein.
Ouais, d'accord.
Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est pareil.
Parfois, j'arrive et je vous dis, je suis hyper vénère aujourd'hui.
Vous êtes fatigué, vous êtes... Je vous assure, quand vous faites une interview en radio et que vous avez le réalisateur qui vous dit dans l'oreillette 20 secondes, vous pouvez avoir un mouvement d'humeur. Et l'invité, lui, il ne sait pas, mais il comprend qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, lui aussi, se braque. Enfin, c'est plein de trucs que vous ne pouvez pas maîtriser. Et c'est très bien.
Il y a une question, peut-être ? J'ai entendu quelqu'un qui voulait parler. Non, du tout. Non, c'est bon. Moi, peut-être une question. Parmi ces gens qui se fichent de peur, est-ce qu'il y a quand même des gens qui devraient, qui sont professionnels et qui devraient être à l'aise et on est surpris parce qu'ils sont timides quand même, ils n'arrivent pas à se faire au jeu de l'interview ou...
Ouais, ça arrive. D'accord. Mais alors, généralement, quand ils sortent du studio, ils ont des séances de média training, c'est-à-dire ils ont des séances qui sont organisées pour... on fait des fausses interviews, pas nous, hein, mais ils font des fausses interviews pour apprendre en fait à s'exprimer et à être plus à l'aise. Parce qu'en vrai, nous, on fait de la radio tous les jours, donc on a du mal à comprendre pourquoi la personne n'est pas à l'aise derrière le micro, mais c'est vrai que ça peut être impressionnant. Mmh. Enfin, vous pouvez avoir ce truc, d'un coup, vous avez votre voix qui part dans les aigus, vous n'arrivez même pas à reconnaître votre voix, vous avez un peu les mains qui tremblent, vous avez le cœur qui bat à 150, et moi, ça m'arrive encore des fois, je ne peux pas vous dire pourquoi. Des fois, quand j'ai un invité devant moi qui m'impressionne, par exemple, ou quand je ne suis pas trop sûre de moi, ou je sais que j'ai peur de dire une connerie, ou voilà, ou pour le podcast, des fois. Et c'est vraiment, c'est un peu... Vous êtes un peu paralysé. Alors après, on arrive à passer ce truc-là. Mais donc, je peux comprendre qu'il y ait des invités qui... pour qui ça soit compliqué, quoi. Ouais.
Et à ce niveau-là, le fait d'être en direct à la radio et de pouvoir avoir un montage avec le podcast, ça change votre propre... track, entre guillemets
ou... Alors, là, moi, non. En l'occurrence, j'adore le direct et pareil pour la télé. Donc, je suis hyper à l'aise, bizarrement. Je suis vraiment très à l'aise. C'est plutôt en fonction de l'invité que j'ai en face de moi que je vais être stressée. Après, moi, j'ai des confrères qui ont pourtant beaucoup d'expérience, mais dès qu'ils sont en direct, ça devient très compliqué, ouais.
D'accord.
Ouais.
J'ai une question, madame.
Allez-y.
Est-ce que parfois quand vous êtes en direct, ça finit par partir au-delà du texte et parfois ça va dans une ça part en improvisation pour revenir après.
Ouais, tout le temps. Moi, c'est ce que j'adore, c'est que. Alors en fait, il y a deux types d'intervieweurs. Vous avez des gens qui ont vraiment leur fiche avec toutes leurs questions et ils veulent poser toutes les questions qu'ils ont. Voilà, qu'ils ont souvent dans les interviews politiques, par exemple. Voilà, ils ont leur liste. Il faut qu'ils les posent parce qu'ils veulent. Ils veulent orienter en fait l'interview vers un angle en particulier. Moi, par exemple, pour le podcast, j'ai une grille de questions, mais ce que j'adore, c'est vraiment être à l'écoute de l'invité et donc rebondir sur un petit mot qu'il va me dire, sur un truc. Ce qui fait que souvent, typiquement hier, par exemple, je m'étais fait une interview en 5 parties et l'invité a commencé par me parler de la partie que j'avais prévue à la fin. Donc, on a tout chamboulé en même temps. Mais moi, c'est pas grave. C'est ce que j'aime, en fait. C'est de pouvoir être réactive avec l'invité. Et en direct, ça arrive tout le temps, quoi. Et mais je trouve ça super. Mais alors, ça veut dire un truc. Ça veut dire qu'il faut vraiment que vous connaissiez votre sujet. Si vous connaissez pas votre sujet, si vous n'avez pas bossé, alors, vous le sentez en 2 secondes. Vraiment, et c'est horrible. C'est dur, quoi.
Peut-être question 11, Zelle Durand.
Est-ce que en ce moment avec la crise sanitaire l'équipe technique elle est réduite?
Non. Alors à la radio non, à la télé un tout petit peu, mais à la radio non. Et contrairement au premier confinement où tout le monde était quasiment comme vous, hein, on faisait la radio à distance. Là pour l'instant on continue à aller physiquement à la radio. Et on n'a pas réduit, non, on a ni... C'est-à-dire qu'en fait, en même temps...
Vous n'êtes pas nombreux, déjà.
Ouais, on ne peut pas trop parce qu'on est vraiment minimum, là, déjà.
Et c'était pas trop dur de faire de la radio à distance?
Alors, je ne peux pas vous dire parce que moi, j'étais la seule à aller encore au bureau. Donc, je n'étais pas dans l'émission Philippe Vandel l'an dernier, j'étais dans une autre émission où j'avais toute mon équipe qui était à distance et moi dans le studio. Et franchement, on était contents de pouvoir continuer à faire l'émission, mais c'était vraiment pas agréable. Mmh. Non, j'ai détesté. Pardon.
C'est un peu étrange, c'est comme notre prof qui est dans une salle de classe vide avec ses élèves sur son ordinateur. Ouais.
Voilà, regardez. Ah. Oh, regardez comme vous n'êtes pas là.
Voilà. Non, c'est-à-dire que ça vous amuse 2 secondes, mais après. Non, c'est vraiment pas. Enfin, je sais pas, quand vous travaillez dans les médias, vous êtes journaliste et que vous aimez les gens, donc vous avez quand même envie de les voir devant vous, quoi. Donc, non, c'est vraiment pas agréable.
Alors, la question poil à gratter numéro 12.
Ah. Est-ce qu'il y a une interview que vous avez regrettée?
Oh, regrettée? Ah putain, alors là, pardon.
Donc là, non, rien de rien, vous ne regrettez rien.
Ah ouais, non, aucune. Ah ouais, non, non, aucune. Ah non, non, je... Alors déjà, j'ai pas de regrets d'une façon générale dans la vie, donc je regrette de pas avoir réussi certaines interviews, sans doute. Vous regrettez tout le temps de pas avoir posé toutes les questions que vous voulez, parce que c'est un métier de frustration, le journalisme. Hein. Vous posez jamais toutes les questions que vous voulez, vous avez pas le temps, vous pouvez jamais garder toutes les questions que vous avez posées. Enfin, voilà, faut accepter de faire des coupes et voilà. Mais ah non, j'ai aucun regret. Même Christian Clavier, vous voyez.
Sacré Christian.
Question plus rigolote, la 13. Bon, c'est numéro 13, mais elle porte pas malheur.
Quelle est votre meilleure expérience?
C'est horrible, ces questions.
On est méchants.
Pourquoi il y a un Stormtrooper?
On voit.
Il y a un Star Wars quelque part.
Ouais.
Ah oui.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ma meilleure expérience?
Ou le meilleur souvenir, ou...
Ou votre meilleure interview, je sais pas.
On essaie de vous aider. Hein.
Ouais, ouais, ouais. C'est fou de pas arriver à... Parce que je sais que je vais vous dire un truc, et puis deux secondes après, je vais me dire, ah non, mais c'était pas ça, c'était plutôt ça. En fait, j'en ai vécu de... J'ai vécu des moments très différents. En presse écrite, j'ai vécu des moments très différents. Où j'ai fait des faits divers, parfois... terrible, mais voilà, qui m'ont vachement marqué. Donc, je peux pas dire que c'est des bons souvenirs, mais ça m'a fortement marqué, vraiment. En radio, j'ai fait des interviews avec des jazzman qui m'ont bouleversée, avec des grands monsieur, voilà. Ça a été très fort. Mais c'est tous les jours, en fait. Non, je peux vous raconter un truc à la télé qui s'est passé, mais ça s'est pas vu. On a fait l'interview il y a un an et on l'avait de nouveau sur le plateau la semaine dernière de Raphaël Pitti, qui est un médecin urgentiste qui a beaucoup travaillé dans l'armée, qui était médecin dans l'armée et qui a fait vraiment tous les terrains de guerre, qui a fait tous les terrains de guerre en Afrique, en Asie, etc. Et il venait nous parler de la Syrie parce que c'est un médecin qui a beaucoup formé les médecins en Syrie pour à la médecine de guerre en fait pendant les bombardements. Et il est venu nous raconter ça et ben j'ai pas tenu sur le plateau, j'ai dû partir parce que j'étais en larmes en fait. Et c'est étrange, mais ce moment-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Et donc à chaque fois que je le vois, je dis là, j'ai envie de pleurer encore. Il rigole, mais parce qu'en fait, il a eu les larmes aux yeux. Alors en nous racontant son expérience, il avait les larmes aux yeux. Alors c'est un monsieur qui est très grand, qui est très imposant, qui a 70 ans, qui a vu toutes les horreurs du monde. Et moi, de le voir aussi ému, ça m'a bouleversé. Enfin, rien que de vous en parler, ça me bouleverse encore. C'est plein de trucs comme ça, en fait, ce métier. J'ai été souvent plus marquée par des anonymes ou par des gens comme lui que par, que par des stars, quoi.
Donc ça, c'était votre meilleure expérience, du coup. C'est pour répondre
c'est
quelque part. La plus forte, ouais. En tout cas, quelque part. La plus intense.
Ouais, je suis plutôt dans... Vous voyez, quand vous me posez cette question, c'est... Je pense aux émotions, en fait, qui reviennent. Voilà. Mais l'expérience, après, c'est tous les jours. Encore une fois, moi, j'ai de la chance, quoi. Je suis hyper contente de faire ce métier, mais tous les jours, vraiment, quoi.
Allez-y, question d'après.
Bon, j'ai quand même la cadence, du coup.
Oui. Bon, elle ressemble un peu. Après, si elle n'est pas pertinente, elle nous le dira.
Hein, ah, allez-y. Hein.
Allez-y.
Avez-vous une anecdote à nous livrer sur votre expérience personnelle?
C'est-à-dire
un truc rigolo, quoi.
Un truc rigolo, c'est marqué.
Les potins.
Non, je vais vous raconter un truc rigolo horrible. C'est pas... Il y a des fans de foot là.
Ouais, totalement.
Voilà.
Il y en a un, apparemment.
Alors, je vous explique. En fait, quand j'étais en presse écrite, je couvrais. J'étais à Nice Matin au début de ma carrière. Donc, vous savez, c'est le journal local de la région du sud de la France. Et donc, quand vous êtes dans un journal local, on vous attribue une zone géographique. Et sur cette zone géographique, vous faites tout. Vous faites la culture, vous faites la politique, l'environnement, voilà. Mais il y a un truc que vous ne faites pas, c'est les sports. Parce que les sports, c'est vraiment une équipe à part entière. Et pendant longtemps, ça a été une équipe que de mecs, hein, on ne va pas se mentir. Et moi, j'adorais ça. Et Et j'allais au match de foot tout le temps. Et notamment, j'allais voir l'équipe de Monaco à l'époque. Et puis, à force, c'était une grande équipe hein, à l'époque. Ouais.
Toujours maintenant, toujours.
Ouais, toujours maintenant. C'était Thierry Henry, Trézéguet.
C'était voilà. En quoi, 97, 98
ouais, des choses comme ça. Ouais, c'était un peu avant. Un petit peu avant. D'accord. Non, c'était après, pardon. C'était après, c'était après le...
Après la Coupe du Monde.
D'accord. Ouais, voilà, okay. Dans les années 2000. Et au bout d'un moment, mes confrères de Nice Matin m'ont dit « Bon, écoute, maintenant que tu es là, est-ce que tu peux aller faire les interviews en zone presse » C'est-à-dire que, vous savez, on ne peut pas aller dans les vestiaires, alors que ce soit filles ou garçons, surtout à Monaco. Et donc, en fait, les joueurs sortent de leur vestiaire et ceux qui acceptent de venir faire les interviews passent dans une zone qu'on appelle la zone presse. Et je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Ah, mais d'ailleurs, ce n'était pas à Monaco, c'était à Lyon, parce qu'on on les avait suivis en déplacement. Je me suis trompée de... Enfin, j'ai posé une question à un joueur, mais je me suis trompée de joueur. Je parlais à quelqu'un qui était resté sur le banc.
Tu touches.
Je ne comprenais pas pourquoi je l'interviewais, et moi, je ne comprenais pas pourquoi il ne me répondait pas. Ça va, je te demande pourquoi tu n'as pas arrêté le but. Je crois que c'était au gardien, à l'époque. Et en fait, je m'étais trompée de... C'est horrible. Oh, quand j'en suis plus, mon Dieu, la honte.
Un moment de solitude.
Un moment de solitude. Ah oui, vraiment. Oui. Voilà.
Mais donc, c'était pas en direct. Donc il n'y avait pas.
Non, c'était pas en direct.
Ouais.
Mais vous savez que c'est arrivé à la radio, mais je sais mais pas avec moi. Hein, mais vous savez, on a des programmateurs qui nous calent les interviews. C'est-à-dire que ce sont des journalistes qui sont vraiment spécialisés pour. Trouver les meilleurs invités, caler le rendez-vous, etc. Et parfois, vous avez un invité qui a le même nom, enfin, deux invités qui ont le même nom. Et donc, la programmatrice s'était trompée et elle avait calé un invité. Et donc, le journaliste, en direct, commence son interview et s'aperçoit que ce n'est pas la bonne personne. Et bien là, ouais, je peux vous dire que c'est très, très compliqué.
Ouais, j'imagine.
Je ne sais même plus comment ça s'est fini, l'histoire. Très compliqué. Mais ça m'est jamais arrivé.
Et une dernière question, Zel Durand, après on fera des questions un peu libres.
Ouais. Est-ce que c'est dur d'être une femme dans ce milieu?
Alors, oui et non. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Moi, j'ai eu assez de chance, je trouve. Mais c'est marrant parce que vous savez, avec toutes ces histoires qu'il y a depuis quelques jours sur les journalistes sportives. On a beaucoup parlé entre nous et moi il y a des trucs qui me sont remontés et je me souviens par exemple quand j'ai commencé ma carrière en presse écrite j'avais 23 ans et je faisais les faits divers et quand vous faites les faits divers par exemple vous allez tous les jours au palais de justice voir le procureur de la République pour voir les affaires en cours et suivre les dossiers et je me souviens que quand j'arrivais j'ai tous les jours, j'avais des réflexions sur « Ah, il y a la petite demoiselle qui arrive. Ah, ben, vous n'êtes pas à l'école aujourd'hui. » Enfin, voilà. Donc, je me prenais des réflexions parce que j'étais jeune, je me prenais des réflexions parce que j'étais une femme, alors que dans les faits divers, il y a beaucoup d'hommes. Donc, dans le journalisme sportif, on m'a dit « Non, ce n'est pas la peine. N'essaye pas, ce n'est pas pour toi. » En radio, on m'a beaucoup dit « Tu sais, on va te prendre parce que c'est bien, ça fait une voix de femme. » Alors, vous dites, voix de femme, mais enfin, au bout d'un moment, est-ce que je dis un truc pertinent ou vraiment vous me prenez que parce que je suis une fille? Et pendant longtemps, j'ai été convaincue qu'on me prenait parce que j'étais une fille. Donc, c'est pas très agréable en termes de confiance. Voilà. Et à la télé, alors vous allez être peut-être étonnée, mais à la télé, par exemple, j'ai pas fait de casting pour l'émission. J'ai fait un essai pour voir si ça allait, mais c'est pas un casting à part entière. Et on a eu une dispute avec une invitée un jour, en l'occurrence, parce que c'était l'an dernier, sur le plateau, l'invitée nous a, tout d'un coup, on était trois journalistes sur le plateau, nous a dit, ben vous, on sait pourquoi vous êtes sur ce plateau, on sait pourquoi vous avez été choisie. Bon, j'ai pas la taille mannequin en plus, donc je sais pas trop pourquoi elle disait ça. Et alors ça m'a fait rire, je me suis dit, mais n'importe quoi, enfin voilà. Et en fait, c'est Ali Badou avec qui je travaille qui l'a démonté. Qui lui a dit que c'était n'importe quoi de dire un truc pareil et qu'on était là parce qu'on était journaliste et qu'on avait des compétences, quoi. Mais en plus, de la part d'une femme, si vous voulez, ça m'avait vachement choquée, quoi. Mais ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Après, vous savez, un truc très bizarre, mais c'est marrant parce qu'on en a parlé encore ce matin. On n'est pas très nombreux. Enfin, là, cette année, moi, je n'ai pas de grandes responsabilités, mais on est peu nombreuses en tant que rédactrice en chef, par exemple, etc. Et quand vous avez une réunion avec tous les rédacteurs en chef et toutes les rédactrices en chef, bah, quand vous êtes une fille, c'est plus compliqué de prendre la parole en réunion, par exemple, et qu'on vous laisse parler. Voilà. Vous savez, c'est ce genre de petits trucs qui sont encore compliqués. Mais vous êtes de la génération où je pense que vous êtes un peu plus ouvert.
Et puis là, on est face à un groupe d'élèves où il n'y a que 3 garçons. Sur 28 personnes, ils sont en minorité parce que c'est humanité, lettres et philosophie. Alors voilà.
Ah, ben, vous savez que dans ma classe, moi j'ai fait lettres et philo, il n'y avait que 2 garçons aussi. Ouais.
Voilà. C'est vrai. Donc ils sont chouchoutés, les garçons.
Ils mènent à la baguette.
Ouais, aussi.
C'est bien.
Est-ce que vous avez des questions les uns les autres en plus? Moi j'en ai d'autres qu'on n'a pas encore évoquées. Parce qu'on a encore 7 minutes avec vous, hein, on va en profiter, sauf si vous êtes pressé et que vous devez vous enfuir. Les élèves, est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous pensez, ou je relance sur une question qu'on a perso? Enfin, perso, à moi. Non, ça va? Vas-y.
Il y a Star Wars.
Ouais, on a un Star Trooper qui a une question à nous poser.
Non, mais vous voyez pas ma tête là?
Non.
Si, je vois ma tête.
Ah, si, un peu, ouais.
Voilà.
Faites le BG un peu.
Nos chambres, elles sont super bien rangées, surtout. Hein,
ils ont fait le ménage pour aujourd'hui.
Non, vous n'avez pas vu les vêtements par terre. Hein.
Pourquoi tu pouquilles, toi?
Alors, vous avez une question à part ça, à part montrer vos chambres?
Je réfléchis. Mais
ah oui, d'accord. Moi, j'en ai une. Réfléchissez, puis je pose la mienne. C'est quoi votre parcours d'études?
Alors, j'ai un parcours atypique, en fait, parce que j'ai commencé par... Donc, j'ai fait un bac littéraire. Ensuite, j'ai fait l'hypocagne. Après l'hypocagne, je me suis fait virer.
D'accord.
C'est original. Donc, j'ai pas fait cagne. Mais je suis partie faire l'Institut d'études politiques à Aix-en-Provence, donc Sciences Po Aix. À la suite de quoi, j'ai fait un DEA à l'école des hautes études en sciences sociales. Donc, c'était un DEA en sciences sociales, c'est-à-dire anthropologie, histoire et sociologie. Donc, ça n'avait strictement rien à voir. Ça n'avait rien à voir avec le journalisme, mais ça m'a beaucoup aidée pour le journalisme. Mais en fait, pendant mes études, j'ai commencé à faire des stages. Donc, j'ai fait des stages en presse écrite, en radio, etc. Et il s'est avéré que j'ai fait un stage à Nice Matin, j'en ai fait un deuxième. Et pendant le début de ma thèse, ils m'ont proposé un contrat. Et donc, j'ai fait un truc que je ne referai pas aujourd'hui. Je faisais ma thèse en même temps que mon premier contrat à Nice Matin, ce qui était absolument horrible. Il ne faut vraiment pas faire ça. Sans le dire en plus à mes profs, parce que j'avais peur qu'ils m'engueulent. Alors qu'en fait ils l'ont découvert parce qu'en fait j'ai signé un papier dans le journal qui avait fait du buzz, et donc ils m'ont dit on sait que t'es journaliste, c'est idiot de pas l'avoir dit. Et ils m'ont conseillé de continuer là-dedans, et en fait en parlant avec mes parents, il paraît que depuis l'âge de 5 ans je disais que je voulais être journaliste. J'ai aucun souvenir de ça, pour tout vous dire. Et donc en fait j'ai enchaîné les stages et j'ai commencé comme ça. Et la radio est arrivée par une rencontre, et la télé est arrivée par une rencontre aussi. Mais je ne peux pas vous dire que c'est le meilleur des parcours, parce qu'en vrai, aujourd'hui, c'est vrai que quand même, la plupart des journalistes, surtout si vous faites de la télé et de la radio, passent par les écoles de journalisme, parce qu'il faut acquérir des techniques et des méthodes de travail. Mais si vous travaillez en presse écrite, moi, je sais que j'aimais bien recruter des stagiaires qui n'avaient pas fait d'école de journalisme, justement, qui avaient fait plutôt du droit, de l'histoire, des lettres. Des gens qui avaient un peu de culture générale, qui étaient un peu plus ouverts d'esprit, parce que je pense que quand même la première des qualités, c'est la curiosité. Donc, c'est pas parce que vous allez en école de journalisme que vous allez être le meilleur des journalistes. Quoi.
Et alors, vous l'avez soutenu, votre thèse, ou pas?
Et j'ai pas soutenu ma thèse.
Ah zut.
J'ai soutenu mon DEA quand même, ouais. Mon mémoire de DEA. J'avais un peu honte parce que vraiment, je trouvais que j'avais pas hyper bien bossé. Mais j'ai été très honnête, je l'ai dit, donc ça m'a valu une très bonne note, parce que je suis très honnête.
Une note d'honnêteté, c'est pas mal ça.
Mais j'étais contente de l'avoir fait, et non, j'ai eu aucun regret de ne pas faire la thèse, parce que j'aurais pas pu continuer. J'étais en sociologie, où là, il n'y a pas de crédit de recherche.
C'est très bouché, ouais.
Ouais, j'étais en sociologie du sport, en plus, ça intéresse personne.
Et c'est quoi le sujet? Est-ce que vous...
Oh là là, alors mon sujet c'était. Alors vous savez, quand vous faites une thèse, les sujets sont très très précis.
Oui, je sais.
Donc, voilà, c'est un truc un peu bizarre. Et donc moi, c'était la pratique du basket chez les adolescents dans la ville de la Seyne-sur-Mer, dans le Var.
D'accord. C'est toujours assez drôle, les sujets de thèse, même si en vrai, il faut.
Je pourrais vous expliquer pourquoi, mais bon, voilà.
Il faut faire quelque chose. C'est de toute façon, il faut, hein, on est obligé de faire. Moi, j'ai fait une thèse sur une auteure du 14e siècle qui a fini brûlée sur le bûcher. Donc, bon, après, chacun sa marotte, hein, mais bon, voilà. C'est la vie. Monsieur Guillon, vous avez trouvé votre question alors ?
Oui.
Oh, allez-y.
Est-ce que pour vous, les réseaux sociaux sont bénéfiques ou néfastes aux journalistes ?
Très bonne question. Les deux. Les deux, parce que on va pas se mentir, c'est une source d'information. Moi, je récupère beaucoup d'infos, notamment via Twitter. Je parle pas de Facebook, hein, un peu Instagram, mais essentiellement Twitter. On récupère des infos, ce qui ne veut pas dire que ce que vous disiez sur Twitter est une info. Il faut la vérifier, évidemment, mais comme pour toutes les sources d'information. Donc, c'est quand même utile. Et puis, moi, j'aime bien le lien que ça crée aussi avec les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. J'ai la chance de ne pas être trop embêtée, je reconnais. Et après, c'est désagréable parce que, comme pour tout le monde, c'est pas le coup d'être journaliste ou pas, dans l'occurrence, c'est que il y a des gens qui viennent nous faire des réflexions, où ils disent que bon, c'est bon, laisse tomber, quoi. Les haters, c'est pour tout le monde, les trolls, c'est pour tout le monde. Mais il faut faire attention, c'est-à-dire que ça a été. C'est un moyen de travailler rapidement, d'avoir les infos rapidement, de contacter des gens qu'on avait du mal à contacter. Mais il faut faire attention, il faut toujours vérifier. Il faut que nous aussi, on fasse un travail pédagogique et qu'on n'aille pas aussi à la petite phrase, au petit truc rapide. Moi, je déteste penser une interview en me disant « Tiens, qu'est-ce qui va pouvoir être récupéré pour que ça fasse le buzz sur les réseaux sociaux ?» Mais j'ai des confrères qui adorent faire ça, par exemple. Mais moi, je déteste faire ça. Donc, ouais, des inconvénients, ouais.
Et est-ce que vous avez déjà interviewé des hommes politiques ou pas ?
Oui, j'en ai fait quand j'étais en presse écrite notamment, et un peu en radio aussi, notamment quand je faisais la petite matinale. La petite matinale, c'est le 5h-7h. C'est pas ce que je préfère, hein, on va pas se mentir, hein, parce que faut se lever tôt. Ouais, il faut se lever à 2h du matin, ouais, c'est même pas tôt.
Faut pas se coucher,
en fait. En vrai, vous me dites, mais c'est la nuit, là, j'ai pas trop envie. Donc, c'est-à-dire que maintenant que je me lève à 4h30, j'ai l'impression que je fais une grasse matinée. Non, les hommes politiques, ce qui est très compliqué, c'est des pros de la communication, quoi. Donc, ils viennent vous asséner un message, alors pour les faire sortir du truc, quoi, c'est un peu pénible. C'est un exercice de rapport de force, en fait, plus qu'un travail journalistique en tant que tel, je trouve. Hein. Après, il y a des gens qui adorent ça. Moi, je préfère aller parler avec des vrais gens dans la vraie vie. Quoi. Mais chacun son truc. Hein. Vraiment, c'est un exercice à part entière qui peut être très intéressant. Moi, c'est pas ce que je préfère.
Est-ce qu'il y a une autre question ? Ouais, allez-y.
Ah, allez-y.
Moi, je voulais savoir, vous qui avez travaillé du coup à la télé, qu'est-ce que vous pensez du fait que les jeunes se désintéressent totalement du média qu'est la télévision ?
Alors, je les comprends mille fois. Je les comprends mille fois parce que vous avez d'autres sources d'informations et des contenus formidables sur les plateformes, notamment, et via Internet, pour le dire vite. Après, c'est tout l'enjeu de ma chronique, notamment le matin. Alors, je ne m'adresse pas forcément aux jeunes parce que, comme la télé, vous désintéressez aussi de la radio. Hein. Mais moi, mon objectif, c'est de montrer qu'il y a des choses extrêmement intéressantes en télé, en radio, dans les autres médias. Et donc, je pense que l'objectif, c'est quand même de trouver une sorte d'équilibre entre tous ces médias. Voilà. Mais je comprends parfaitement que le 20h, ça vous gonfle, que vous n'y trouvez pas un intérêt. Parce que je pense qu'on ne s'adresse pas à vous quand on fait les 20h. C'est nul, on parle pas aux jeunes que vous êtes, quoi. Et je trouve ça dommageable. Mais en même temps, vous vous informez autrement. Donc, il faut qu'on aille vous chercher ailleurs, quoi. Moi, je trouve que le boulot qui est fait sur Twitch, par exemple, par certains journalistes en ce moment, c'est formidable. Voilà.
Samuel Etienne.
Ouais, par exemple. Après, je sais pas si ça vous intéresse.
Si, moi, j'adore.
Mais moi, je trouve ça formidable. En fait, c'est à nous de faire l'effort d'aller vers vous, en fait, en vrai. Hein. Et si vous vous désintéressez du média, c'est à nous de nous poser les bonnes questions.
Mais en fait, c'est surtout que Enfin, par exemple, François Hollande qui est passé dans... Il a fait un live Twitch avec Samuel Etienne. Et en soi, ce qu'on lui demande de faire, ça ne demande pas tellement d'efforts. C'est juste d'être naturel devant une caméra et de répondre à des questions. Ouais. C'est pas si compliqué de nous parler, il faut juste trouver les bons...
Exact. C'est le bon exemple, c'est que François Hollande réussit plutôt bien l'exercice et que deux semaines plus tard, Jean Castex, il se plante complètement et que ça ne fonctionne pas. Parce que le Premier ministre, il est dans son rôle de Premier ministre, il est encore dans des schémas de communication qui sont des vieux schémas de communication. Moi, je suis vieille hein, par rapport à vous, et moi, ça ne me convient pas non plus. Quoi. Je ne m'y reconnais pas. Je trouve que tout est affadi, tout est sous contrôle. Et c'est pour ça que je n'aime pas trop l'interview politique en tant qu'exercice, parce que vous êtes obligé de rentrer dans cette espèce de moule, quoi. Voilà. Et on n'arrive pas à en sortir. Mais je ne veux pas faire du Karine Le Marchand, les mettre sur un canapé et leur poser des questions sur leur vie intime, ça ne m'intéresse pas non plus. Hein. Mais voilà, je trouve que c'est compliqué de les faire sortir de cet exercice totalement figé, quoi. C'est pas très agréable ni pour nous à faire. Vous vous intéressez pas à ça, donc c'est la preuve que ça fonctionne pas quand même, quoi. Mais voilà, il y a encore des barrières à faire sauter, c'est compliqué, hein. C'est vraiment dur, ouais.
Je pense aussi qu'un truc qui nous a pas plu, c'est le fait que nos stars à nous, de notre génération, quand on voit les youtubeurs, dès qu'ils sont pris sur un plateau télé, ils sont totalement descendus.
Ah bah alors, je vais être très à l'aise avec cette question-là, parce qu'il y a 3 ans, je faisais une émission sur Europe 1, qui s'appelait « Les petits pas dans l'écran ». Et c'était une émission où j'invitais des youtubeurs, justement. Et je vous jure, je crache sur mon parquet qui est tout neuf, si vous voulez. Je n'ai jamais demandé à un youtubeur combien il gagnait, par exemple.
Bravo.
Totalement, je ne pose pas cette question à un comédien ou une comédienne. Je ne vois pas pourquoi je poserais cette question à un youtubeur. Moi, un youtubeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient faire un contenu de qualité, parce que si je l'invite, c'est que je trouve qu'il fait un truc de qualité, et je trouve ça extrêmement intéressant. Et on a fait ça pendant 1 an. Franchement, tous ceux qu'on a invités, ils sont venus. C'était hyper agréable. Moi, j'ai appris plein de trucs. Après, j'allais voir des ados, je leur demandais ce qu'ils regardaient sur les écrans, parce que j'avais envie de savoir comment vous informiez, ce que vous regardiez, les séries que vous regardiez, etc. L'émission, elle a été arrêtée au bout d'un an. Pour des raisons un peu obscures, parce que c'était la meilleure audience, c'était la plus grosse audience à Europe 1 cette année-là. Bon. Et c'est. Vous voyez, vous me demandez si j'avais des regrets. Eh bien, ouais, je regrette que. Alors, ça ne dépend pas de moi, parce que ce n'est pas moi qui ai décidé. Mais je regrette de ne pas m'être battue plus pour que l'émission, elle perdure. Parce que je pense que c'était une excellente émission. Parce qu'enfin, on vous donnait la parole et qu'on s'adressait à vous. Voilà. Et j'ai voulu la reproposer, on m'a dit non. Et là, l'autre jour, on m'a dit « Ah, c'était quand même bien, hein ?» Bah ouais. Pardon, mais ça m'agace. Non, mais je vous assure, ça m'agace, quoi. Et je déteste la façon dont on interviewe les youtubeurs sur les plateaux télé. C'est normal qu'ils n'y aillent plus, et c'est normal que vous, ça vous gonfle. Pourquoi on demande toujours « est-ce que vous gagnez votre vie en faisant des vidéos ?» Non, mais est-ce que je te demande que si tu fais une série, tu gagnes ta vie ? Bah oui, comme tout le monde, quoi. C'est un travail. Voilà, il faudrait arrêter de leur poser ces questions-là, quoi. Mais alors, j'espère qu'on est d'accord là-dessus.
Des youtubeurs comme vous, vous avez...
Pardon ?
Des qui comme youtubeurs, par exemple ?
On a fait Nota Bene, vous savez, les ouais, qui fait l'histoire. J'adore. L'histoire, voilà. Ouais. On a fait Dr. Nozman. On a fait Professeur Feuillage. C'était il y a 3-4 ans, hein, donc en fait, ça va vite quand même, vous voyez. Donc, j'ai pas pu faire. Mais Lola Dubini est venue. Je perds un peu la mémoire. Qui on a fait d'autres des gens que je réinvite aussi.
Manon Bril, peut-être en histoire, je sais pas.
Je sais pas si vous connaissez Julien Méniel qui fait DTC dans le sport, voilà, que j'aime beaucoup. Ben, j'ai fait le podcast avec lui la semaine dernière, il est revenu. On a fait Léa Bordier, je sais pas si vous connaissez, c'est une jeune femme qui a une chaîne YouTube, c'est génial, elle recueille des témoignages. Hyper touchant, elle est formidable. J'adore cette fille. On en a fait plein et on en avait, je vous dis, on en faisait 1 à 2 par semaine en fait. Et j'adorais faire ça.
Ah, ça donne bien.
Alors peut-être que c'est pas les gens que vous regardez encore aujourd'hui parce qu'en 3 ans, il y a des nouvelles têtes, etc. Mais en revanche, vous voyez par exemple, quand même, il faut que je vous dise un truc pour être qu'on soit bien clair. On avait invité Squeezie, il est jamais venu. On avait invité Norman et il n'est jamais venu. C'était déjà.
Squeezie, il a été traumatisé, le pauvre, quand même. Ouais, parce que Thierry Ardisson, c'était quand même très violent.
Mais alors, attends, c'était avant Thierry Ardisson. Ah. Et alors, évidemment, deux ou trois semaines après, Thierry Ardisson est passé par là. Donc là, j'ai dit, bon, ok, c'est mort. Je repasserai en année 4. Voilà.
Donc il y a un espoir que ça revienne peut-être, si vous en reparlez. On ne sait pas.
Non, parce qu'en fait, ils disent ça, parce que tout d'un coup, ils disent, oh tiens, on n'est pas à la page, quoi. Je me suis battue pour qu'on fasse une semaine spéciale pour parler des étudiants et des jeunes comme vous qui galèrent en ce moment. Je me suis battue, c'est-à-dire que tous les jours, j'envoie 50 messages avec 50 propositions de sujets, etc. Même pas pour des émissions que je présenterai moi, je m'en fous. C'est qu'on fasse quelque chose pour vous, qu'on soit solidaire avec vous dans ce moment-là. Et moi, je voulais qu'on fasse une opération jusqu'à la fin de l'année, en fait, jusqu'à ce que la crise sanitaire passe un peu, parce que j'ai toujours espoir que ça passe. Et bon, bah, ils ont fait une semaine spéciale et j'ai pas trouvé ça très bien fait. Je le dis facilement. Hein.
Oui, c'était il y a pas longtemps, c'était il y a 2-3 semaines.
Ouais, c'est ça. Voilà. Okay. Je trouve qu'on ne s'est pas adressé aux jeunes comme je l'espérais, quoi.
Ouais, il y a plus un aspect com peut-être que vraiment quelque chose d'engagé ou de
d'efficace. J'avoue, j'ai pas de réponse là-dessus. C'est compliqué.
Alors j'ai oui, allez-y, peut-être dernière question, parce que moi après il faut que je fasse cours en philo, alors désolée, sinon je vous laisse papoter entre vous, hein. Vous prenez le thé, mais...
Qui aimeriez-vous interviewer
Barack Obama ? Non, je plaisante. Alors pour le coup c'est une question que souvent on me pose, et en fait en vrai, d'abord j'aime faire les interviews avec tout le monde, mais j'aime bien les gens qui sont pas connus, ou qui commencent à peine à être connus, quoi. Parce que je trouve qu'ils sont plus généreux que les gens qui ont l'habitude des médias et qui contrôlent un peu leur discours, quoi. Donc, c'est pour ça que j'aimais faire les youtubeurs, justement, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude et qu'on pouvait avoir des discussions intéressantes. Et pour le podcast, par exemple, j'adore interviewer des scénaristes parce qu'on ne leur donne jamais la parole. On donne toujours la parole aux comédiens, aux stars. Mais les réalisateurs, les scénaristes, on ne leur donne jamais la parole. Et moi, ça m'éclate, en fait. Voilà. Je préfère parler avec vous, voyez, pendant une heure que d'aller faire...
Christian Clavier.
Ouais.
Décidément. Ça va être le running gag de la journée.
C'est horrible. Non, mais c'était tellement con comme histoire.
On vous remercie. Je suis désolée de devoir écourter parce qu'on serait bien resté plus longtemps.
On refait ça quand vous voulez, il n'y a aucun problème.
Ça marche.
C'est particulier... Faisons-le. Puis vous êtes les bienvenus. Dès qu'on nous réouvre un peu les portes de la radio, vous serez les bienvenus pour voir comment on bosse.
Ah, ça serait super. On adorerait, je pense. Hein, je pense, les élèves, oui.
Ouais.
Ouais. Il valide. Merci encore.
Merci.
Bonne continuation. Au revoir. Alors, vous êtes encore là, vous, les élèves. Bon, c'est juste pour vous dire au revoir.